Vous écoutez France Inter, il est 9h, pardon, et 13 minutes, je suis émue, François Régis, parce que je vais encore plus déguster votre émission. Vous avez une invitée, j'ai dévoré son livre sur les mers lyonnaises, et quand on aime Lyon comme ça, on ne peut qu'être formidable. Merci Catherine Simon.
Oh ben merci Bernadette, je suis touchée. Bernadette Simonaz est
de Lyon, hein, vous savez qu'il y a du favoritisme dans cette histoire. Elle m'a dit avoir lu effectivement votre livre.
Non, non, ce n'est pas ça. Non. Tout à fait objectif.
Et vous m'avez dit absolument avant votre flash que vous aviez énormément apprécié le livre de Catherine Simon. C'est notre invitée aujourd'hui pour évoquer l'aventure des mers lyonnaises. Merci beaucoup Bernadette Simonaz.
Merci,
je vous en prie.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
S'appelaient Eugénie Brasier, Léa Bidot, Paul Castin, Fernande Gache. Elles ont régalé des générations de bec fin entre Saône et Rhône, à coups de quenelle de brochet, de volaille, de mideuil, de gratin de cardon.
Quand ils faisaient manger chez moi, ils allaient manger comme s'ils allaient manger chez leur mère. Mais des trucs tout simples. Georges Garnier ma croûte, c'était le jour où je faisais du gratin avec des côtes de porc. Ou la poule avec du riz, alors là c'était le rêve.
Léa, c'est la meilleure cuisinière de Lyon.
C'est pas vrai, je suis pas.
Moi qui suis contre les femmes au fourneau, il y a que toi que j'admets.
Moi je suis venue au monde, je crois au monde avec le goût et puis comme j'ai dit, une poêle dans la main, c'est pas possible.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau grand format dont on va déguster l'émission qui nourrit le corps et l'esprit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour questionner notre alimentation, pour explorer notre patrimoine gastronomique et pour cuisiner aussi plein de recettes appétissantes. Connaissez-vous la mère Gache, Léa Bidot, Marité, Paul Castin? Ces femmes libres et émancipées ont écrit au XXe siècle l'une des pages les plus belles de la gastronomie lyonnaise et française et elles sont pourtant, à quelques exceptions près, tombées aux oubliettes de notre histoire. Une journaliste et écrivaine réhabilite leur mémoire. C'est Catherine Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé en 2018 Manger, M-A-N-G-E-S. C'est un participe passé pluriel au féminin. Vous nous en expliquerez la signification. Une histoire des mers lyonnaises, un récit passionnant, aux éditions Sabine Vespizer. Dans la deuxième partie de cette émission, on vous propose une leçon de cuisine 100% végétale, c'est-à-dire sans aucune protéine animale. Des recettes qui vont plaire non seulement à nos auditeurs végétaliens, mais à tous nos auditeurs, les omnivores que nous sommes aussi, puisque ce sont des recettes salivantes qui permettent d'explorer tout le potentiel du règne végétal. C'est le défi que relève en tout cas le boulanger pâtissier Rodolphe Landemaine et Claire Vallée, chef du restaurant vegan Ona dans le bassin d'Arcachon. Elle m'accompagne depuis le début du confinement et elle m'accompagne pendant toute cette émission. C'est la première fois qu'elle retrouve depuis très longtemps le chemin du studio 521 de la Maison de la Radio. C'est Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous, je suis tellement contente d'être là en chair et en os.
Et
en
moi
vrai,
tellement ravi de vous retrouver depuis des semaines à mes côtés dans ce studio.
Plaisir.
Ça fait vraiment plaisir. Nous retrouverons également à distance notre chroniqueur vent Antoine Gerbel et des voix amies de France Inter, Vincent Josse et sa lecture gourmande, Mathieu Conquet et ses accords mets et musiques, Laurent Delmas et sa séance de cinéma comestible. Posez-nous vos questions, amis auditeurs, faites-nous partager vos recettes. Intervenez dans cette émission au 01 45 24 7000. Bianca et Théo attendent vos appels. Vous pouvez aussi interagir sur le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
On entame cette émission avec une initiative salivante et solidaire, Elvira.
C'est la fin des haricots, François-Régis, mais fin, F-A-I-M. C'est un joli projet initié par une maison d'édition indépendante parisienne qui s'appelle les éditions du Motel, qui recueille vos recettes du confinement sur leur site. Alors, il faut livrer, c'est ouvert à tout le monde, hein. Vous livrez un nom de recette, votre anchoyade, par exemple, François-Régis, les ingrédients, le déroulé, une photo. Pour l'instant, le contenu sera posté sur le compte Instagram La Fin des Haricots, qui sera comme le témoignage en recette de cette étrange période qu'on a vécue.
Oui.
Un livre sera ensuite publié. Ils ont d'ailleurs lancé un appel à financement sur KissKissBankBank. La référence est sur le site. Les bénéfices de ce livre seront reversés à la Chorba, qui est une association formidable à Paris, qui distribue des repas, qui fait des maraudes et qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
Voilà une bonne idée.
Pas mal, hein ?
On n'a pas d'idée pour l'instant des recettes qui sont tombées dans leur escarcelle.
Il y en a quelques-unes, des recettes assez simples, de pâtes, etc. Mais c'est vraiment, chacun d'entre vous peut poster la recette qui lui paraît pertinente. Il faut que ce soit appétissant, simple, accessible, voilà.
Catherine Simon, vous avez été confinée à Paris ?
Non, en Lozère.
En Lozère, avez-vous cuisiné ?
Oui, beaucoup.
Un exemple de plat ?
J'aime beaucoup faire la tarte à la spirale de Sonia Esgulian parce que c'est simple, délicieux et très joli. J'aime bien le visuel, moi, dans la dans ce qu'il y a dans l'assiette.
Sonia Esgulian
et des carottes, lyonnaise, bien sûr.
Comme vous,
comme moi.
Dont on risque de reparler tout à l'heure.
La tarte à la spirale.
Oui, la tarte à la spirale, c'est avec des lanières de courgettes et de carottes.
Et oui.
Ben voilà, sur ce qu'il vous reste à faire. Les éditions du Motel, la fin des haricots.
Parfait. Toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Cette émission a été préparée à distance par Nadia Chougui et Romy Engels. C'est Camille Blanès qui la réalise en direct avec à la technique Juliette Delperroux et Alexandre Chenet. Maud Ventura nous aide à la coordonner. Junior, la vérité nue. Bonne journée sur France Inter.
De France, mais évidemment à Paris et à Lyon surtout, il y a eu entre les deux guerres ce qu'on a appelé la crise de la domesticité, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable raréfaction de ce qu'on appelait les bonnes. Il y a une crise de la bourgeoisie, moins de revenus, donc très souvent on supprime la cuisinière, parce que la cuisinière était la mieux payée des domestiques. Donc il y a une main-d'œuvre libérée, et les femmes ainsi libérées ont cherché une ascension sociale, une autonomie tout au moins. Donc, elles se sont lancées, elles se sont dit après tout, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que j'aurais pas mon restaurant à moi? Et ainsi, elles sont devenues des cuisinières et des mères.
Quand l'historienne Michèle Perrault évoque l'émergence des mères lyonnaises dans l'entre-deux-guerres, c'était un extrait d'un siècle de pionnières à la table des mères lyonnaises, un documentaire que vous avez écrit, Catherine Simon, avec la réalisatrice Sylvie Févelet, et qui a été diffusé sur France 3 en janvier dernier. Et ce documentaire, il faut le préciser, est une libre adaptation de Manger, le récit que vous avez publié en 2018 aux éditions Sabine Vespizer. Je signale d'ailleurs que le replay de ce documentaire passionnant, on a beaucoup apprécié Elvira, il est vraiment extrêmement riche et très documenté. Il est à nouveau accessible sur la page internet dont va déguster. Merci à France Télévisions pour ce replay. Pourquoi Lyon ? On a parlé évidemment de la crise de la domesticité, c'est comme ça qu'on qualifie cette période trouble où effectivement le statut des employés de maison est en train de changer, est en pleine transformation. Mais Lyon est quand même un cas particulier.
Oui, alors ce qu'on a appelé plus tard les maires, en fait il y en avait dans plein d'endroits de France, dans les campagnes notamment, mais Lyon a cette particularité d'avoir une concentration de femmes en cuisine, on va dire, on les appellera plus tard mères ou pas d'ailleurs, mais souvent mères, qui est particulier, alors qui tient, je pense, d'abord à la géographie. Il suffit de regarder une carte, l'axe nord-sud. Et puis, donc, c'est un lieu de passage, de brassage. Les compagnons passent par Lyon, il faut bien qu'ils se logent, qu'ils se nourrissent. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a la soie, donc il y a aussi la soie, et puis la chimie.
L'industrie de la soie, donc une ville riche.
La soie, l'industrie de l'automobile qui va venir ensuite. Donc, de l'argent, du travail. Donc, une ville assez particulière pour ça. Et puis, c'est une époque particulière. Il n'y avait pas le frais réfrigéré à l'époque. Or, sans le frais réfrigéré, si on regarde autour de Lyon, c'est un garde-manger qui est à portée de main. Vous avez la Bourgogne au-dessus, le Beaujolais, je vous fais pas un dessin. La vallée du Rhône avec tout, c'est un potager à ciel ouvert. Il y a la Dombe qui est à portée de main. Il y a les vaches du Charolais. Il y a voilà.
Les tout, Alpes tout, pas très loin non plus. Hein, voilà pour les poissons de lac notamment. Voilà. Et puis il y a l'Auvergne à l'ouest évidemment avec des laitages, des fromages. C'est donc Lyon, et je dis pas ça, on est un peu de parti pris, hein, puisque j'en suis natif, mais
on est de parti pris.
Il est vrai que Lyon est au carrefour, c'est étonnant, et c'est même exclusif, on pourrait dire en France, au carrefour de plusieurs terroirs extrêmement riches.
Oui, d'excellence, enfin au niveau de gastronomique, que ça soit effectivement...
Donc les mères lyonnaises ont germé sur ce terreau, en fait.
Absolument, alors on les appelle mères alors qu'elles n'étaient pas forcément très maternelles, et lyonnaises, pratiquement aucune. C'est-à-dire que c'était toutes des femmes qui venaient des campagnes autour, hein, qui venaient des monts du Forez, qui venaient de l'arrière-pays niçois, qui venaient de la Savoie, qui venaient, etc., etc., de la Saône-et-Loire, bon, avec leur accent, avec leur savoir, et qui sont souvent arrivées à Lyon et se sont été embauchées comme petites bonnes, on disait comme ça à l'époque. Et donc, elles ont commencé, en fait, à apprendre. Chez ces familles aisées, voire bourgeoises, elles ont appris qu'on pouvait mettre de la crème fraîche, pas seulement du beurre. Elles ont appris la truffe.
La bonne crème de Bresse.
Il y avait de la truffe et pas forcément que le champignon. Voilà, elles ont appris tout ça. Elles ont appris le savoir-faire, les codes. Voilà, elles ont appris les codes. Et puis, la crise de la domesticité qu'évoquait Michèle Perrault il y a un instant a effectivement jeté dans la rue pas mal de gens, dont ces cuisinières, qui se sont dit, comme dit Michèle Perrault, et pourquoi pas moi ? Alors, c'était compliqué, parce qu'on oublie un peu vite, c'est comme l'eau au robinet, l'électricité, mais les femmes à l'époque, elles étaient considérées comme des mineurs, c'est le code Napoléon.
Eh oui, statut juridique.
Voilà, comme les enfants ou les indigents.
Elles étaient interdites de chéquier. C'est pas fou qu'elles puissent ouvrir des restaurants sans même avoir des moyens financiers.
Et puis, aucun achat de biens matériels sans l'autorisation du mari, statut de la femme mariée.
Ou d'un associé. Donc, elles se sont débrouillées. Voilà. C'est des espèces de système D à l'échelle d'une région qui était absolument formidable. Donc, elles se sont lancées avec des registres de cuisine dans des quartiers différents. Il y en avait partout. Il y avait la mère Giraud qui était à la Guillotière. Il y avait la mère Gache dont on a entendu la voix, qui venait de Savoie, elle qui était à la Croix-Rousse. Comme la mère Brasier, dont on parlera bien sûr. Il y en avait dans tous les quartiers de Lyon, les quartiers un peu bourgeois, voire carrément riches, et puis les quartiers plus populaires. Elles étaient partout, dans tous les secteurs, dans le quartier de la soie, le quartier des abattoirs, voilà.
Et sociologiquement, on va voir d'ailleurs qu'elles pratiquaient des genres de cuisine assez différents, des genres de cuisine très raffinés, parfois au contraire des cantines plutôt populaires, la mère Filiou, la mère Brasier, Léa, Marité à la Croix-Rousse, la mère Gache, madame Castin à Condrieu, on est un petit peu plus loin dans la vallée du Rhône septentrional, la mère Maury à Romans-sur-Isère, là on s'éloigne carrément, la mère Blanc à Vonnas, etc. L'histoire n'en a retenu que quelques-unes, alors que visiblement ça a été un vrai mouvement sociologique et qu'elles ont été très nombreuses dans le métier à Lyon et dans sa région.
Oui, sans doute des dizaines, peut-être des centaines. Moi, j'ai très hâte de voir des universitaires plancher là-dessus et travailler sur cette histoire-là, qui est encore très méconnue. Bon, les Lyonnais s'en souviennent, hein, tous ceux qui sont passés par les tables des mères lyonnaises en ont gardé un souvenir, pas simplement gastronomique, mais aussi convivial et social presque, parce qu'elles ont vraiment construit les quartiers de Lyon. Certaines, comme Marité, elle avait une table pour les clochards, par exemple. Bon.
À la Croix-Rousse. Hein.
À la Croix-Rousse. Absolument.
Alors là, vous évoquez une femme. Commençons peut-être par celle-là, même s'il y en a d'autres. Et il y a des profils extrêmement attachants. On le voit notamment dans ce documentaire que vous avez coécrit et qui a été diffusé sur France 3. Voilà une femme avec un charisme, une générosité tout à fait étonnant dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est une espèce de, j'ai presque envie de dire une espèce de Mère Teresa de la gastronomie.
Oui, c'est-à-dire souvent c'est des femmes, pas toutes, hein, mais elle en particulier avait une enfance difficile, cabossée, compliquée, et elle s'est retrouvée à Lyon un peu par hasard. Elle vient du côté de Saint-Marcellin, elle était née là-bas, elle a beaucoup bourlingué, elle a même été serveuse au Maroc, enfin bon. Elle se retrouve à Lyon et elle était mariée avec, à l'époque, avec un monsieur Morat qui a donné son... Il a donné son nom. Et il s'installe rue Ozanam, qui est une toute petite rue sur le haut des pentes de la Croix-Rousse, à côté de la mairie. Et elle ouvre d'abord, ça s'appelait le comptoir des Bressans. C'était un truc glauque, pourri. Vraiment, elle avait trois personnes qui venaient boire un café ou leur verre de blanc le soir. Et c'était très, très difficile, d'autant que elle s'est retrouvée seule parce que le mari s'est envolé. Donc, elle s'est retrouvée sur les bras avec qu'il fallait payer les traites, etc. Et le quartier l'a soutenue et elle a donné tellement au quartier qu'il y a une espèce d'osmose comme ça absolument magnifique et qui fait que petit à petit les gens du marché, c'était à côté le marché de la Croix-Rousse, ils venaient manger le machon chez elle, donc on lui dit mais fais à manger, et elle s'est mise à faire la cuisine. C'est une autodidacte absolue, elle a pas du tout fait, de toute façon les femmes n'avaient pas droit à faire des écoles de cuisine avant, c'est assez relativement récent, donc elle s'est improvisée mais elle faisait tout. Elle avait son riz de veau au mori qui avait une réputation incroyable dans toute la Croix-Rousse, mais elle faisait aussi tout simplement des andouillettes ou un steak ou des choses très simples. Sa clientèle a changé et s'est étoffée, c'est-à-dire qu'elle a gardé le petit peuple de la Croix-Rousse, mais elle avait aussi à la fin des people qui venaient un peu s'encanailler, parce qu'il y a ce côté un peu social, un petit peu branché, qu'il y avait un petit peu à la fin dans ces tables de mère lyonnaise, comme chez Léa aussi, on venait un peu s'encanailler, etc.
Et c'est d'ailleurs, dites-vous, cette Marité, l'une des deux seules mères lyonnaises dont les murs de Lyon portent encore la trace. Seulement deux mères lyonnaises. La ville de Lyon a rendu hommage à seulement deux mères lyonnaises. Alors, il y a Marité, évidemment, à la Croix-Rousse. Il y a la mère Brasier. Là, pour le coup, c'est une légende. Elle est incontournable. Mais je crois que une rue porte le nom de Eugénie Brasier grâce à un certain lobbying de Paul Bocuse, qui fut son élève. Mais ça montre bien quand même à quel point c'est... femmes sont assez finalement invisibles, ont même parfois été jetées aux oubliettes. Et d'ailleurs, votre enquête le montre, puisque vous avez été obligé de la... On va dire que c'est un récit hybride, assez singulier, où vous mélangez des archives, des documents, et en même temps, vous êtes obligé de combler quelques trous noirs.
Beaucoup de trous noirs. C'est pour ça qu'il a été construit comme ça, parce que notre mémoire est lacunaire. La mémoire officielle, vous faisiez allusion, même voyez la mère Filiou, qui est donnée comme la grande figure, la première, bah, je suis désolé de le dire, mais vous allez à la halle Paul Bocuse, son nom est mal orthographié.
Il y a une faute d'orthographe, Filiou. Voilà. Bon. Il y a un I avant les deux L et après les deux L. Voilà, celui et là, de après les deux L est oublié.
Absolument.
Mais je crois que même la mère Brasier n'a jamais été interviewée, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Il n'existe aucun document officiel, entre guillemets.
La mère Brasier a effectivement reçu les hommages. Bah, notamment du guide Michelin, puisqu'en 1933, elle accomplit la double performance d'avoir 3 étoiles dans son restaurant rue Royale, au 12 rue Royale, premier arrondissement de Lyon, et au col de la Luère, son deuxième restaurant. Mais par contre, vous vous rendez compte, en faisant cette enquête, que la mère Brasier n'avait jamais été interviewée. Ça veut dire quoi? Que les journalistes, les médias la snobaient?
Bah, tout le monde les snobait. En fait, on les aimait bien, mais on les snobait. C'est ça qu'il y a dans le mot mère. C'est affectueux, puis en même temps, bof, on dirait le père Robuchon. On dirait le père Bocuse, pas du tout, jamais de la vie.
Il n'y a pas de bienveillance dans la mère.
Disons que c'est
j'essaie
un mélange.
De me faire l'avocat du diable.
Bah si, ça déprécie quand même. On dit la mère machin, la mère Michel, c'est quelque chose d'assez... Il y a ce mélange affectueux de condescendance qu'il n'y a pas du tout avec les hommes. En tout cas, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes.
Un peu de condescendance, effectivement. Je vais vous proposer, justement pour montrer un peu cette condescendance ou cette misogynie ordinaire, Ce sexisme ordinaire incarné parfois par quelques critiques gastronomiques, je vous propose d'écouter un extrait de votre documentaire où l'on entend... Il y a Elvira qui lève les yeux au ciel. C'est vrai que ça vaut son pesant de cacahuètes, écoutez bien, chers auditeurs. Ouais. Où l'on entend une archive d'apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, qui donne la parole en 1975 au critique gastronomique Christian Guy.
Parce que les femmes ont du talent en cuisine.
Certainement pas. Certainement pas. Voyons enfin, ça serait, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un bocus femme. La meilleure preuve, puisque vous parlez de féminin, eh ben, chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chefesse.
Cheftaine.
La cheftaine de l'étoile d'or.
Vous aurez la mère Brasier.
Hein? La mère Brasier, oui, mais elle avait des chefs. Ah, mais c'était l'exception. Alors, nous discutons pas aujourd'hui.
Les mères lyonnaises.
Les mères lyonnaises, tout ça, c'est du folklore.
Donc la cuisine des femmes, c'est du folklore, voilà. Alors que la cuisine des hommes, c'est une affaire sérieuse, c'est ça en
bah
fait
oui, hein. Bien sûr, les femmes font à manger, les hommes font des chefs-d'œuvre, c'est connu, non?
Mais là, on est en 1975.
Bah, c'est pas si vieux que ça. C'est ça. Ça n'a pas forcément changé tant que ça. Quand on regarde les étoilés, quand on regarde le nombre de femmes en cuisine, ça n'a pas forcément changé aussi vite qu'on le pensait. Ça a peut-être arrivé maintenant, parce qu'on est dans une nouvelle ère, sans doute, et de la manière de manger et de la manière de la faire.
Quand on voit la difficulté encore de souscrire des emprunts à la banque quand on veut ouvrir un resto, il y a
bien
aussi
sûr.
Absolument.
Une sorte de crédibilité, quoi.
Mais là où Christian Guy, au-delà de ses a priori et de ses idées reçues, fait une erreur d'analyse historique, c'est que l'apport de ces mères lyonnaises à la gastronomie lyonnaise en particulier, mais aussi nationale en général, a quand même été colossal. D'abord parce que, comme vous l'expliquez très bien dans le documentaire et dans votre livre, il n'y a pas une cuisine de femmes uniforme, homogène, la même. Elles sont parfois allées sur des terrains de jeu très différents. Vous avez dressé une espèce de typologie justement des cuisines qu'elles pratiquaient et on voit qu'elle était extrêmement diverse et créative, cette cuisine.
Il y avait un peu trois types de cuisine, si on veut simplifier. Il y avait, disons, la cuisine raffinée, un peu luxueuse, avec des produits chers, la truffe, le foie gras, etc. Hein, la fameuse poularde demi-deuil de la mère Brasier, c'était avec de la truffe.
Et de la mère Filiou, juste avant elle.
Elle avait piqué la recette chez la mère Filiou, bien sûr. C'est comme ça. Les artistes, on se pique les uns les autres. Et donc,
on va dire qu'on échange sa recette dans la cuisine.
Oui, voilà, ça se revisite, c'est ça. Diplomatiquement. Et donc, la mère Brasier, ou comme Léa, ou Paul Castin, qui était une immense cuisinière, alors elle, c'était des cuisines quand même raffinées, avec des produits luxueux ou pas, mais souvent luxueux. C'était, voilà, elle valait 2 étoiles, elles les ont eues.
On va revenir sur le destin de Paul Castin, mais très intéressant. En tout cas, dans cette catégorie de cuisine, on va dire raffinée, sophistiquée, plutôt bourgeoise.
Ah, et assez cher. Oui, assez cher. Table assez cher. Et puis il y a la deuxième qui est, c'est pas l'opposé d'ailleurs, on va le voir, c'est les quartiers plus populaires. Donc là, c'est l'andouillette, c'est la blanquette de veau, c'est des choses beaucoup plus simples, plus quotidiennes.
Cuisine ménagère.
Oui, cuisine ménagère et qu'on mange assez vite parce qu'on travaille. Donc voilà, c'est pas le fast-food, mais enfin, voilà, c'est pas, on reste pas à table pendant 4 heures.
C'est la poulerie de la mère Gache,
absolument,
à la Croix-Rouge.
Absolument, c'est sa poulerie. C'est les tripes de Marie Témora, etc.
À la voûte.
Très très bien, qui est un plat simple mais délicieux. Et puis, en fait, il y a ce qu'on appelle, je dirais, patrimoniale. Oui. Bon, je dis ça comme ça parce que voilà, c'est la quenelle de brochet, la quenelle, comme on dit à Lyon. C'est l'andouillette, c'est le gratin de cardon, c'est la tarte à la praline, voilà. Il y a encore à Lyon, vous allez chez Arlette Hugon, la tarte à la praline est magnifique. La gâteau de foie de folie, il faut aller chez Brigitte Josserand. Enfin, il y a tous ces plats patrimoniaux. Mm-hmm. Et en fait, ces mères lyonnaises, c'était pas étanche ces catégories. C'est-à-dire qu'une Marie Témora, je le disais, peut faire un riz de veau au mori absolument succulent. De même que.
Y compris pour des clochards. On dirait aujourd'hui, pardon, sans domicile fixe, mais à l'époque,
ils avaient leur table. Mm-hmm. Ils avaient leur table. Et puis, Paul Castin, qui cuisinait des choses géniales, genre sa cendre à la côte rôtie, mais qui savait aussi faire du jambon à l'os, tout simple, qu'elle cuisait je ne sais comment. C'est une magicienne de la table, Paul Castin. Donc, il y avait ces trois registres où elles excellaient, en fait, assez facilement. Elles avaient une mobilité incroyable, une modernité. Elles ont inventé, alors, elles n'étaient pas forcément les seules, mais ce qu'on appelle aujourd'hui les tables d'hôtes. Vous allez quelque part et puis voilà, et ses menus uniques. Et ben elles faisaient ça, bien sûr. Et puis bah si ça vous plaisait pas, vous allez voir ailleurs. Elles avaient un sacré caractère aussi, bien sûr, souvent.
Vous évoquez justement le destin singulier de Paul Castin. J'avoue que j'avais un peu oublié son nom parce que on subit nous aussi évidemment l'amnésie de la mémoire collective et de l'histoire. Et d'ailleurs, j'étais très surpris en voulant en savoir davantage après avoir vu votre documentaire et votre livre qu'elle n'a même pas de fiche Wikipédia. Elle a eu jusqu'à 2 étoiles à l'époque. Voilà une alors mère lyonnaise, elle, d'abord pas tout à fait Lyon puisqu'on est à Condrieu, donc à 30 km au sud de Lyon, en face de Vienne, absolument, on est donc en Isère.
Dans l'Isère.
Oui. Mère, non, c'était Madame Castaing.
On disait Madame. Son personnel aussi disait Madame.
Origine assez aristocratique. Enfin, non, pas origine aristocratique, mais mariage aristocratique.
Elle avait en fait un port aristocratique.
C'est ça.
Mais elle était d'origine totalement populaire.
Oui, fille de boulanger, d'origine limoise, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc ils étaient montés. Voilà. Elle a commencé à travailler dans un petit hôtel-restaurant en Ardèche. Et puis voilà, elle a fait ce mariage avec un monsieur Castaing. Et ils sont installés dans un endroit magnifique, Beau Rivage. C'est au bord du Rhône, c'est en face de Vienne. Mais c'est aussi en face, à l'époque, d'un restaurant fameux. C'était la Pyramide. Et c'était Fernand Point.
Et oui, Fernand Point.
Et ils étaient copains, hein, Mado et Fernand Point venaient souvent la voir. Mais Fernand Point a eu les 3 étoiles et elle n'en a eu que 2. Alors que, bon, moi je ne suis pas critique gastronomique, mais tout le monde s'accorde.
Elle a vraiment fait, paraît-il, une cuisine d'avant-garde.
Absolument.
Si l'on en croit le chef Alexanian, qui a été... Alain Alexanian, qui a été
un de ses élèves, elle.
Qui a été chef étoilé à Lyon. Les circuits courts, que des produits extrêmement locaux d'extraction paysanne. On parlait pas de circuit court à l'époque, mais elle était déjà extrêmement sensible à cette dimension des choses. On parlait pas de bio non plus, mais il fallait que ces produits soient naturels.
Ouais, soient frais tous les matins, et elle prenait pas si c'était pas frais. Les écrevisses, c'était le Rhône.
Voilà.
Qui était au bout de son jardin, au bout de son champ. Elle avait ses propres viviers de poissons. Évidemment, tous les maraîchers du coin, de côté de Condrieu, c'était circuit court, vraiment avant la lettre, quoi. Le gibier, etc. Alors c'était plus ou moins légal, mais c'était toujours délicieux, ce qui est quand même l'essentiel dans un restaurant.
Des célébrités y font escale, hein. Vous citez Sacha Guitry, Humphrey Bogart, le prince Charles, Alain Chapelle, quand même.
Mais
ça, c'est pas rien. Le chef 3 étoiles de Mionnet dans l'Ain allait, on va pas dire en douce, mais allait s'inspirer chez la mère Castaing, alors qu'aujourd'hui Alain Chapelle est carrément considéré comme un chef institutionnel de notre gastronomie.
Mais ils étaient amis, ils avaient une grande affection. Elle, c'était une femme à la fois, elle avait ce port un peu altier, aristo, etc. Mais c'était une femme d'une autorité douce, mais une autorité très forte. Mm-hmm. Mais jamais elle élevait la voix en cuisine, ce qui était extraordinaire à l'époque. Hein. C'était un champ de bataille. Et elle était, jamais elle n'élevait la voix. Mmh. Et effectivement, tous les grands chefs sont venus manger chez elle. Chapelle, avec qui ils avaient de l'amitié, de l'affection l'un pour l'autre, mais aussi Ducasse, Bocuse. Enfin, tout le monde a défilé chez elle pour venir goûter ces plats qui étaient absolument délicieux.
Allez, Catherine.
Paul Castaing. Bah, je vous propose justement d'accueillir en ligne. Alors, je sais pas. On va lui poser la question si elle rejette ou elle accepte le mot de mère en cuisine. C'est Daniel Crost. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez bien?
Bonjour Catherine.
Bonjour Daniel.
Chef du Castor oui. Gourmand, vous intervenez d'ailleurs dans le documentaire que co-signe Catherine Simon. Vous êtes à Crémieux en Isère, à l'ouest de Lyon, pas si loin finalement de là où officiait Paul Castaing.
Tout à fait, on n'est pas très loin. Là vous voyez, on est derrière les fourneaux, là on prépare le service de ce midi. Et écoutez, pour répondre à votre question, les mères lyonnaises, c'est... comme un bonbon d'antan, quoi, un roux-doudou, c'est un bon compliment d'une époque révolue. Mais vous savez, maintenant, les femmes en cuisine ou en pâtisserie sont des professionnelles qui sont formées au même niveau que les hommes dans les lycées et les écoles hôtelières. Elles obtiennent les mêmes diplômes. Donc, si vous voulez, moi, je dois dire que les mères lyonnaises qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a 100 ans environ, elles ont le courage de s'affranchir de cette domesticité, comme vous citiez juste avant, et pour leur indépendance, en ouvrant des bouchons, des bistrots. Donc si un client me compare à ces femmes courageuses, généreuses et indépendantes...
Vous dites oui.
Alors oui, deux fois oui.
Mais votre grand-mère était elle-même une mère, Daniel.
C'est ça, j'allais y venir. Oui, vous êtes bien placée pour en parler, puisque vous êtes petite fille de mère. Alors pas tout à fait lyonnaise, mais mère bressoise.
Voilà, juste aux portes de la Dombe et de la Presse, Alice Baud, qui avait un bistrot-restaurant à Pizet. Et j'ai grandi avec elle, pour les vacances, avec ses goûts de grenouille, de volaille, du bon beurre qui enrobe la bouche, et puis de la bonne crème de la Bresse, des tartes aux pommes, dans des vieux moules noircis par le four à bois. Elle cuisinait des produits de leur ferme, hein, les légumes, l'étage, les œufs, volailles, ils étaient complètement autonomes. Et
elle a travaillé jusque tard, paraît-il, hein,
oui,
Daniel Crost.
Plus de 70 ans, oui. Oui, oui, oui. C'est la maladie qui l'a fait arrêter, parce que c'était tourné Ils avaient une ferme en plus, donc elle était aidée par sa belle-fille. Et si vous voulez, c'était... Donc on m'assoyait sur la caisse à bois, à côté du fourneau à bois. Et j'étais... Le seul endroit où j'étais calme, c'était en cuisine. Donc on m'assoyait sur cette caisse en bois et on me garnissait la bouche lorsque j'étais un peu impatiente. Et j'ai des souvenirs incroyables. Incroyables de goût qui me sont restés, quoi que...
Vous faites des prouesses, Daniel Crost au Castor Gourmand. Votre votre restaurant est entouré d'une merveilleuse réputation. On va passer directement à une petite recette qui est pas vraiment une recette traditionnelle d'influence lyonnaise, mais une recette justement d'auteur en mettant le e à la fin. Vous nous suggérez en plus une recette qui est à la fois très agréable, qui est végétale et qui est plutôt estivale.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est une recette de notre époque qu'on peut utiliser facilement en apéritif ou en accompagnement. Donc vous prenez 100 grammes de lentilles corail.
Écoutez bien Elvira. 100 grammes de lentilles corail qu'on fait cuire.
Donc on le fait cuire avec un demi-oignon, un peu de thym, du sel, du romarin. Une fois, il faut 20 minutes. Une fois cuites, on les égoutte, on les laisse rafraîchir. Pendant la cuisson de ces lentilles, on fait une petite panade. Alors c'est 100 grammes de brioche ou du pain de la veille, sur lequel on rajoute 100 millilitres de lait. Alors moi je mets du lait parce que ça allège un peu la recette. On peut mettre de la crème, mais ça a tendance à alourdir. Donc vous mettez 100 millilitres de lait que vous avez fait bouillir, vous avez versé sur votre brioche, vous la laissez refroidir, puis vous mixez le tout, une fois que tout est froid, les lentilles, la panade, un peu d'huile d'olive. Vous rajoutez, alors ça c'est un petit truc, 50 grammes de poudre d'amande. Ou de noix, ça apporte un petit peu de rondeur à votre recette. Et après, suivant vos goûts, vous pouvez rajouter un peu de cumin ou un peu de paprika.
Ah, ça y est, bien à sourire. Il y a le cumin, il y a l'Orient qui frappe à la porte, ça nous plaît. Donc si je comprends bien, on obtient une espèce de houmous, mais qui n'est pas fait avec des pois chiches, mais une autre légumineuse cousine, la lentille corail, très utilisée notamment dans la cuisine indienne. Par contre, il y a un peu une espèce de trompe-l'œil, parce que j'imagine que dans
ça
le bol...
Ça doit être tout rose.
Oui, c'est ça, ça ressemble à un tarama en fait.
Oui, oui, voilà. Alors, ça s'assombrit un petit peu à la cuisson, mais ça reste un rose un peu marqué. Et pour rajouter un petit peu de lyonnaiserie, je dirais, on met griller des tranches de lard très fines au four pendant 10 minutes à 160 degrés. Oui. Vous versez ça dessus votre donc houmous, comme vous l'avez désigné, qui est resté 2 heures au frigo et c'est parfait.
Et Sébastien Piève, un auditeur, me précise qu'on dit effectivement bressane et pas bressoise. Là, j'étais en train de me faire maudire par toute la région. Je suis en plus lyonnais et impardonnable. Bressane, évidemment.
Attention.
La tradition bressane. On peut pas oublier le pays de Brillat-Savarin, notamment. Un immense merci, Daniel Crost. On viendra vous voir très vite. Merci beaucoup pour
je retourne au fourneau.
Votre tempérament et votre talent. Et je crois que vous faites le plein au déjeuner.
Oui, l'ouverture étant, il y a une impatience et c'est vrai que depuis 15 jours et le temps nous le permet, nous allons pouvoir servir en terrasse.
Merci beaucoup. Juste un
merci
petit.
À vous.
Merci beaucoup, Daniel Crost. Juste un petit mot, Catherine Simon, même si on arrive à la fin. Alors, peut-être celle qu'on a le moins évoquée, c'est la plus connue. C'est Eugénie Brasier, d'autant qu'il y a un petit symbole aujourd'hui. À quelques jours près, elle est née le 12 juin 1895. Il y a 25 ans, quasiment jour pour jour. En quelques mots, le destin de Eugénie Brasier. Là, pour le coup, on peut pas vraiment dire que l'histoire l'a oublié. Elle est même la référence, celle qui a formé Bernard Pacot, le chef de l'Ambroisie, celle qui forma également Paul Bocuse au col de la Luère. Voilà une...
C'est une
légende, une icône.
C'est une icône lyonnaise et même nationale. Bah, sa vie, elle est une enfance, alors plus que cabossée, une famille pauvre, violente, très dure, une enfance très dure. Et puis elle a eu beaucoup de chance. Elle a fait ses galons chez des bourgeois lyonnais. Elle a été élève chez la mère Filou au Breteau. Et puis elle a eu surtout, alors elle avait, c'était une très bonne cuisinière, excellente, contrairement à ce que disait le pauvre Christian Guy. Mais son génie peut-être, c'était qu'elle avait une bosse du commerce, on dirait. Elle a eu, elle la première et la seule, elle a mis dans la rue Royale une enseigne Mère Brasier. Et cette enseigne Mère Brasier, elle aura 100 ans l'an prochain, en 2021. Donc elle avait un sens comme ça de se faire valoir. Vous savez, c'est un vieux truc chez les restaurateurs, c'est bien, c'est vous savoir bien faire la cuisine, il faut savoir bien faire à manger, mais il faut le faire savoir. Et elle, elle a su faire savoir, et elle a brillé pour ça, et elle a brillé avec énormément de courage, parce que la ville de Lyon, ses restaurateurs et ses notables n'ont pas été forcément très tendres avec elle. Oui. Et elle avait beaucoup de dignité, parce qu'elle n'a jamais fait d'éclat, et elle n'a jamais fait d'éclat, alors même qu'elle n'a même pas été interviewée, alors que c'était une très grande de la cuisine, ni même par Le Progrès, j'en suis bien désolée, ni par la télé, ni voilà. Mais il reste quand même sa cuisine, et puis il reste sa mémoire, que Jacotte Brasier, notamment sa petite fille, continue à porter.
On a décidé dans cette émission de consacrer un des prochains On va déguster dans la saison prochaine à la mère Brasier. Vous en serez, hein, Catherine Simon.
Avec plaisir.
Car vous avez enquêté sur ce destin.
Une grande bonne femme.
Incroyable. Ouais. Ouais, vraiment. En partant de très très loin. Hein. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, puisqu'on va encore parler de femmes en cuisine. Mais on fait une petite pause musicale avec Lucas Santana, un Brésilien. Un peu de chaleur humaine sur France Inter.
Quand a fera fere e mata alguém. Só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
De ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome.
Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Les mères lyonnaises au menu de cette première partie dont on va déguster XXL. J'ai décidément ma géographie dans les chaussettes puisque j'ai dit que Condrieu était en Isère, donc c'est dans le Rhône.
C'est bien ça.
Je suis décidément impardonnable. Non, mais je sais pas ce qui se passe.
Ça touche.
C'est franchement des coins que je connais bien en plus. Ça va pas du tout. Une toute petite réaction avant de donner la parole à notre ami Laurent Delmas, chère Elvira.
Un mail de Fabienne qui nous écrit que grâce à cette émission me vient l'idée de créer un atelier d'usage numérique pour créer les pages Wikipédia de ces femmes cuisinières.
Et bien voilà.
Formidable.
Formidable cette émission. Sert enfin à quelque chose. Vous auriez pu prendre ce
merci
rôle.
Merci, bravo.
Vous auriez pu endosser ce rôle d'ailleurs de compléter un peu les fiches Wikipédia.
Je suis pas très geek, moi, mais
vous commencez à bien connaître.
Ça peut s'apprendre.
Les femmes chefs sont parfois des héroïnes de cinéma, n'est-ce pas, Laurent Delmas? Bonjour.
Oui, bonjour François-Régis, bonjour Elvira, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Si la figure du chef cuisinier est présente dans de nombreux films, on évoquait dimanche dernier celui de La Règle du Jeu, leurs homologues féminines, il faut bien l'avouer, sont moins nombreuses. Donc merci François-Régis de m'avoir affranchi du pourtour lyonnais. Mais une certaine Babette Hersant pourrait en être la figure tutélaire. Mais oui, souvenez-vous de cette Française qui a fui la répression de la Commune de Paris et s'est réfugiée au Danemark pour devenir la servante de deux vieilles sœurs bigotes. Et un beau jour, elle frappe à la porte du salon.
Entrez. J'aurais quelque chose à vous demander.
C'est quoi, Babette? Mais assieds-toi, Babette.
Lors de la fête du centenaire, cela m'aurait fait plaisir de préparer un grand dîner.
Oh, mais très chère Babette, nous ne songions pas en faire un dîner spécial. Pour nous, ce repas était plus une façon de nous réunir afin de prier et honorer sa mémoire.
Mais enfin, Babette, tu sais bien que nous ne recevons jamais les gens autrement que pour un léger repas. J'aurais voulu préparer un festin français.
Un festin français?
Un festin français? Oh, s'il vous plaît, pour une fois, un vrai dîner français.
Eh bien, c'est d'accord, Babette. C'est entendu, Babette.
Et ces blinis demi-d'œuf avec crème de caviar, ces cailles en sarcophage farci m'ont fait saliver pendant un moment, cher Laurent, depuis la sortie de ce film en 1987.
Mais évidemment, le festin de Babette, alors l'ancienne chef cuisinière du Café Anglais de Paris, concocte donc un menu d'exception qui finira par subjuguer les 10 convives pourtant bien décidés à n'en rien laisser paraître. Alors je ne résiste pas, pour compléter ce que vous avez dit, au plaisir de vous le détailler, ce menu qui est l'apothéose du film de Gabriel Axel, le festin de Babette, d'après une nouvelle de Karen Blixen. Soupe de tortue géante, effectivement blinis demi-d'œuf au caviar et à la crème,
ouais.
Effectivement caille en sarcophage au foie gras et s'il vous plaît sauce aux truffes, puis salade d'endive aux noix. Ça fait du bien, un peu de fromage, évidemment. Et pour finir, en trois temps, savarin et salade de fruits glacés, fruits frais et baba au rhum. Voilà, on est bien, c'est un bon repas français. Le tout arrosé, s'il vous plaît, d'un veuf Clicquot 1860 et d'un Clos Vougeot 1845. La scène est censée se dérouler en 1886. Je vous laisse faire le compte. Bref, la cuisinière a de la ressource, même si elle est ainsi ruinée. Il semble que le pape François en personne ait succombé au charme gourmand de ce repas filmé en le citant, tenez-vous bien, dans une de ses homélies. Il est vrai que cette Babette-là, c'est un peu le paradis sur Terre. Alors côté enfer, on passera charitablement sous silence la prestation de Catherine Zeta-Jones dans Le goût de la vie, qui ressemble à une chef comme Elvira Masson à une nonne tibétaine, et vous, François Régis,
moi, je la sens bien en nonne tibétaine, Elvira.
Ah ouais.
Ça vous plaît, tant mieux. Recentrons-nous plutôt sur Hortense Laborie, alias Catherine Fraud, dans le film de Christian Vincent, Les Saveurs du Palais.
Les Saveurs du Palais.
Elle y incarne assez fidèlement Daniel Mazet Delpuech, cuisinière périgourdine et pionnière des tables d'hôtes rurales en France, que François Mitterrand fit venir à l'Élysée pour mettre un peu de terroir dans les assiettes présidentielles. Avec elle, c'est son enfance charentaise que le président fait remonter à la surface. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de la cuisine des mères. Tu peux quitter l'enfance, mais ton enfance ne te quitte pas. Et la cuisine au féminin, c'est le véritable passe-plat de nos émotions culinaires d'hier. Kéchiche l'a bien compris quand il montre que sans les femmes, ni la graine, ni le mulet ne pourraient être servis à temps sur la table du nouveau restaurant. Mais il est l'heure de quitter ce giron maternel. Alors c'est ce qu'on fait aussi Catherine Deneuve, restauratrice en Bretagne, qui décide de plaquer tout à trac son établissement dans le succulent Elle s'en va d'Emmanuel Berco, au son non moins réjouissant d'un titre du savoureux groupe britannique The Divine Comedy.
Below the pole rolls slow from out Adriatic Sea.
Blow, bellows, blow.
Merci, cher Laurent.
Merci, François-Régis.
On se retrouve la semaine prochaine, j'espère.
Avec un immense plaisir.
Ce sera la dernière édition dont on va déguster XXL. Ensuite, on va déguster, repassera les dimanches de juillet en horaire normal, c'est-à-dire le dimanche à 11h, de 11h à midi. Un grand merci, Laurent, et bon dimanche.
Merci à tous les deux, à bientôt.
Elle est cuisinière dans la capitale des Gaules et la capitale des Gueules. Vous l'avez un petit peu annoncé, chère Catherine Simon. C'est une cuisinière qu'on apprécie beaucoup et qui est peut-être bien une source d'inspiration d'Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Catherine Simon l'a divulgaché tout à l'heure.
Mais c'est pas grave du tout, non. Tant mieux. C'est Sonia Esgulian, alors je sais pas. Pour moi, c'est un peu une mère lyonnaise nouvelle génération. Effectivement, tout ce qu'elle crée m'inspire. Tout est simple, ouvert sur toutes les cuisines du monde, délicat, accessible. Alors, je sais pas si elle serait effectivement complètement à l'aise avec l'appellation de mère lyonnaise.
Non,
en tout cas,
pas.
Non, c'est pas son genre.
Mais c'est une grande cuisinière.
Ouais. Elle a longtemps tenu un restaurant à Lyon. Désormais, elle cuisine chez elle, chez les autres, dans des livres. Et puis, elle vient régulièrement mettre son grain de sel dans l'émission. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, elle a posté la photo d'un superbe bouquet de sarriettes fraîches hachées, mélangées avec du sésame, des graines de fenouil, du sumac et de la fleur de sel. C'est sa version à elle du zaatar, mais frais, pas sec. Le zaatar, on en a souvent parlé ici, enfin surtout moi, parce que j'ai un léger tropisme levantin.
Non, sans blague.
C'est à la fois un mélange sec d'épices commun à toute la région, à tout le Levant, mais avant d'être ce mélange sec, ce peut être un mélange frais. Et c'est surtout une herbe aromatique qui entre dans la composition de ce mélange du même nom. Zaatar signifie thym en arabe, mais comme l'indique son nom botanique, Origanum syriacum, origan de Syrie, le zaatar est souvent qualifié d'origan sauvage, de la famille des lamiacées.
Des lamiacées, absolument.
Ni tout à fait origan, ni thym, ni même marjolaine, le zaatar est unique, puissant, légèrement piquant. Alors pour sa recette de zaatar frais, Sonia, en l'absence ou de latitude de cette feuille vert clair arrondie un peu dufteuse, elle a utilisé de la sarriette. Mais alors là, moi, quand je me suis mise en quête de sarriette il y a quelques jours, c'est pas compliqué, j'ai fait chou blanc. J'ai appelé une dizaine de primeurs, j'ai appelé des jardineries, rien, rupture de stock. J'ai fini par avoir une explication qui m'a été donnée à la jardinerie de Montmartre, rue du Poteau, dans le 18e arrondissement. Ils m'ont dit « on a un mal fou à se procurer de la sarriette, comme la marjolaine, parce que nous, en ville, on ne veut que du basilic, de la menthe et de la coriandre, donc les producteurs n'en produisent plus, ou en tout cas beaucoup moins ». J'en étais là hier en fin de matinée, à maudire Paris, à pleurnicher un peu sur ma chronique perdue, quand dans mon courrier j'ai trouvé ceci. Une enveloppe joliment ornée de fleurs, à l'intérieur de laquelle se trouvait une petite poche sous vide ornée de l'étiquette, le zaatar de Sonia. Attention délicate que Sonia m'a posté au courrier quelques jours plus tôt. Elle l'utilise entre autres choses sur un régluant, son zaatar, je trouve l'idée géniale. Pour notre casse-croûte, Catherine et François-Régis, je vous propose ce fromage de chèvre frais, zaatar arrosé d'huile d'olive.
Génial, on va le déguster justement pendant le flash de 10h. Ça embaume vraiment dans tout le studio 521. Merci beaucoup Sonia Esguillon, vous allez me le partager un peu quand même.
Je garde tout pour moi.
Avec du fromage frais, ça va particulièrement bien, ou sur du riz, comme vous le disiez, la recette sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Un immense merci Elvira.
Et merci Sonia.
Et merci Sonia pour cette attention. Catherine Simon, Manger une histoire des mères lyonnaises aux éditions Sabine Viespézer, et ben ça peut être une très belle lecture estivale justement. Un grand merci d'être venu au micro dont on va déguster en ce dimanche. Et à
merci
très bientôt pour parler donc de mères lyonnaises.
Avec plaisir.
On se retrouve à 10h11.
10h12 sur France Inter, on retrouve François-Régis Gaudry pour la deuxième heure dont on va déguster.
Merci beaucoup Emmanuel et à bientôt sur les ondes de France Inter. On va déguster XXL, rallonge la sauce jusqu'à 11h, Elvira Masson est toujours en notre compagnie, à mes côtés, à ma droite.
Je suis ravie.
Antoine Gerben nous rejoindra tout à l'heure pour sa chronique 20. Nous passons cette deuxième partie d'émission avec un étonnant pâtissier boulanger, c'est Rodolphe Landemaine. Bonjour Rodolphe.
Bonjour à tous.
Vous avez ouvert le 22 février dernier une adresse qui fait beaucoup parler d'elle, malgré le confinement d'ailleurs, hein, ce qui est quand même une sacrée prouesse. Land and Monkeys, une boulangerie-pâtisserie 100% végétale. Et nous serons également à distance avec Claire Vallée, chef de Ona dans le bassin d'Arcachon. C'est une adresse gastronomique 100% végétale. Si vous avez, amis auditeurs, des recettes végétales à nous faire partager, appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
De la platine au petit plat, il n'y a qu'un pas que franchi allègrement chaque semaine. Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous êtes l'un des experts musique de France Inter, vous popotez à quatre mains avec votre votre cuisinière et femme Marie Conquet, cuisinière de métier. Le véganisme vous intrigue visiblement culinairement et musicalement, cher Mathieu.
Ben oui, moi, quand vous m'avez dit cuisine vegan, moi je vous dis Aïtal. Je pensais au rasta jamaïcain et à leur régime Aïtal. Il faut pas confondre avec italien, bien sûr. Et oui, les rastas sont fous de musique et de cuisine. Mm-hmm. Et ils le chantent régulièrement. Écoutez ça.
It name help me cook my Sunday dish. It name help me cook my Sunday dish. We call it rice and peas and scobbish fish. To eat it every Sunday is my favorite wish. Just leave me Sunday morning when me go warm up.
Sunday dish, early bee. On veut la traduction intégrale des paroles, s'il vous plaît, Mathieu.
Bah, c'est le repas du dimanche. Mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le régime Aïtal. Aïtal is vital, hein. Le mot vient de l'anglais vital. À ce que j'en sais, c'est né dans les années 50, quand les Rastas sont descendus à Kingston, en Jamaïque. Alors, il faut que je vous décrive la pochette du disque que vous entendez là. Early B, j'ai mis des photos, hein, sur Instagram, vous pourrez tout retrouver. Early B, il est dans sa cuisine au début des années 80, une cuisine du ghetto qui est faite en tôle ondulée, en bois de récupération. mais il a mis un tablier et il cuisine le Sunday dish, le plat du dimanche, avec forcément des haricots. Ça, c'est la base de la cuisine rasta, en tout cas jamaïcaine. Et Aïtal, c'est un mode de vie. Vous êtes ce que vous mangez. Votre façon de cuisiner, de nourrir, ça vous situe dans le monde. Et pour les Rastas, il faut éviter tout ce qui a été altéré par des colorants, des conservateurs, des pesticides, des engrais chimiques, qui sont la marque de Babylone. Pour les Rastas, pas de viande. Mmh. Alors certains consomment des petits poissons, d'autres n'ajoutent pas de sel. Mmh. Avec Marie, on voulait vous proposer une omelette Aïtal. C'est une omelette sans œufs, une omelette avec des bananes plantain, bien mûres, hein, il faut qu'elles soient complètement noircies, très molles.
Commence à avoir le sourire, notre invité Rodolphe Landomène.
Ah oui, ouais, il a la banane, j'espère.
Pas mal, bien joué.
Alors, ces bananes bien mûres, plantain, on va les écraser à la fourchette avec de la farine de maïs jaune, le vert des oignons, et puis à côté, Marie a préparé une sauce rougail. Alors, vous savez, c'est tomates, piment, ail, oignon, gingembre, qu'on fait revenir dans une casserole. Il faut cuire à feu vif entre 5 et 10 minutes. L'omelette Aïtal, elle va être à la fois douce par la banane, mais en même temps bien relevée avec le piquant de l'oignon. Et avec le vert des oignons, le jaune de la banane, le rouge de la tomate, vous avez une vraie omelette aux couleurs rasta.
Ça donne envie, non, Elvira?
Hyper appétissant, ouais.
Et comment vous accompagnez cette créolité culinaire et 100% végétale, cher Mathieu?
Alors, je vous propose d'écouter le grand Horace Andy, un chanteur jamaïcain qui a une voix de fossé extraordinaire et qui a une très très belle carrière avant même de travailler avec Massive Attack. Là, c'est un titre de 1974 et c'est tout indiqué puisqu'il parle de comment on s'alimente chez les Rastas. Aïtal is vital.
Aïtal is vital, absolument. On retrouve votre recette que vous avez composée avec votre femme Marie sur franceinter.fr à la page On va déguster et puis également en story sur votre compte Instagram, cher Mathieu, c'est bien ça?
Oui, oui, ben heureusement, vous me donnez des petites recettes pour mettre de la musique avec les images et tout, mais je vais y arriver.
Vous nous en gardez un petit bout. Et puis, on vous retrouve dimanche prochain, Mathieu, pour le dernier XXL dont on va déguster, qui sera bien musical sur les bords, puisqu'on fêtera la fête de la musique.
Eh oui, avec grand plaisir. Je me réjouis, on vous prépare plein de bonnes choses.
Et il se pourrait même que vous soyez avec nous en plateau. À dimanche, Mathieu.
À dimanche.
Horace, Andy, Aïtal, is vital.
Ce comme don't know me tell yo. No you did it better tell you what you want to say.
Aïtal is vital.
We cool naturals, I would say.
Aïtal is vital.
Vital is Aïtal.
Aïtal is vital.
Vital is natural.
Aïtal is vital.
Natural is beauty. So come to tell us in your beauty. Cause when you're natural, you're Aïtal. And when you're Aïtal, you're vital. When you're Aïtal, you're Aïtal. So come and don't know, make me tell you. Come who knows a chain. Can even know a chain. Come and tell you about the songs. Each and every one of them, as I would say, a natural, a natural, a just a beauty, a beauty. So come and tell you about me. I'm gonna tell you about the natural. Cause when you're natural, I like it. And when you're Aïtal, I like it. Cause if you're walking down the street to this day, you got to let the light shine, that each and every one should know. Each and everyone get paid according to his work, as I would say. Go when you're natural, you're
Aïtal, vital.
And when you're Aïtal, you're vital.
Aïtal is vital.
And when you're vital, you're Aïtal. So come to tell I say you're
Aïtal, vital.
Aïtality and naturality.
Aïtal is vital.
Equality and justice stand for all. Know that the old Satan pagan kingdom must fall. Lord God, be merciful unto why you knew I when I cry. For in the last day, so they say,
Things ain't gonna happen this way.
De la cuisine Aïtal à la cuisine 100% végétale d'aujourd'hui, c'est le menu dont on va déguster XXL.
On va déguster sur France Inter.
Chou-fleur, légumes, riz, lentilles pour les protéines. Et tout ça, ça fait un très bon mélange. Je ne me nourris pas ni de la souffrance, ni de la mort d'autres êtres vivants. C'est intéressant parce que si on demande aux gens, vous êtes en faveur de la morale ? Vous êtes en faveur de la justice, vous êtes en faveur de la bienveillance. Vous êtes bien d'accord qu'infliger à un être vivant des souffrances non nécessaires, ça ne va pas être la morale. Tout le monde est d'accord. Alors là, la compassion s'arrête au bord de l'assiette. C'est dommage.
Quand Mathieu Ricard, moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama et photographe, évoque ses choix alimentaires, je crois que c'est lui qui vous a conduit sur la voie du 100% végétal, Rodolphe Landemaine, il y a quelques années.
Ouais, exactement. Moi, j'étais végétarien avant. Et puis, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, j'ai lu un petit article dans Le Monde où Mathieu Ricard expliquait pourquoi il était devenu végétalien. J'ai très rapidement lu des livres et regardé les émissions qu'il proposait. Et en fait, j'ai très rapidement fait le switch vers d'un régime végétarien à un régime végétalien.
D'ailleurs, vous définissez comment ? Quel adjectif mettez-vous sur votre régime alimentaire ? Régime végétal, régime végétalien ? Est-ce que vegan est pour vous un peu connoté militantisme hardcore ?
Non, vegan n'est pas connoté militantisme hardcore, sauf que c'est un mot qui est un petit peu touchy, un petit peu délicat à employer. Alors on parle de végétalien pour être plus consensuel, mais en vérité, quand on décide de ne plus utiliser des produits d'origine animale ou de manger des produits d'origine animale, par définition, on est vegan, c'est un mot générique qui a été créé au milieu du XXe siècle pour définir ce qui est décidé de se passer totalement des animaux dans leur vie courante.
C'est ça. Rodolphe Landemaine, vous êtes vraiment le produit, on va dire, de la boulangerie française traditionnelle, la boulangerie de tradition.
Ouais.
Vous avez d'ailleurs un certain nombre de boutiques qui ne sont pas végétaliennes. Hein, vous en avez à Paris,
ouais.
Au Japon,
ouais.
À Lille.
À Lille aussi, ouais.
Ça en fait combien en tout ?
Une vingtaine, ouais, 20 magasins.
Une vingtaine. Et là, vous faites une espèce de cooking out, on va dire ça comme ça, avec Land and Monkeys. Je dois vous avouer que c'est sur le conseil d'Elvira Masson qu'on vous invite.
Merci Elvira.
Parce que Elvira a découvert votre travail, elle y est allée en qualité de journaliste, elle a absolument tout goûté, on connaît son professionnalisme. Vous avez tapé un peu dans la viennoiserie, vous avez tapé dans la pâtisserie traditionnelle, mais également dans les choses salées à emporter. Et vous vous êtes dit, comme d'ailleurs beaucoup de gens dans ce milieu, Pierre Hermé, le premier, le grand pâtissier de tradition, vous êtes dit, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose, j'ai trouvé ça assez ahurissant à la fois dans la démarche, dans... la discrétion aussi avec laquelle vous ne manifestez pas forcément, vous n'êtes pas du tout excluant en fait, l'idée que tout le monde puisse venir chez vous, mais surtout la qualité absolue, enfin faire un croissant, une brioche de ce type sans aucun apport de matière grasse animale, pour moi c'était presque inédit.
Et sans effectivement s'inscrire dans une démarche communautariste.
Exactement, parce que le but c'était de fédérer en fait l'idée sous-jacente de ce projet, c'était de dire si on est capable par la gourmandise de réconcilier un petit peu ceux qui mangent pas, enfin ceux qui sont pas véganes et ceux qui sont véganes autour de l'assiette, et puis que le dénominateur commun c'est la gourmandise et que c'est bon, on aura réussi notre pari. Alors on voulait pas l'afficher partout, on voulait que les gens viennent dans le magasin, goûtent les produits, et puis on s'est dit que si, parce que vous savez dans une boulangerie c'est les personnes locales qui viennent le plus souvent dans la boulangerie, on savait qu'on allait faire plaisir aux véganes qui allaient se déplacer pour venir goûter cette nouvelle adresse, mais on voulait faire plaisir à ceux qui habitaient à côté, et si eux revenaient, alors le pari était gagné.
Land and Monkeys, ça pourrait faire comme ça un peu adresse hipster de San Francisco.
Ouais.
Expliquez-nous la signification.
Alors, il y a pas mal de petits clins d'œil. On voulait un peu en rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans la boulangerie,
éloignez de la tradition française,
ouais,
en effet.
Tout en étant dans la continuation de la tradition. On ne voulait pas totalement être en rupture, mais Land and Monkeys, c'était pas mal de petits clins d'œil. Bon, il y a Land, qui est le début de mon nom de famille, mais qui est aussi
la première
terre
syllabe
en anglais. C'est ça, la première syllabe de mon nom de famille, Landemaine. Et puis Land, c'est la terre. Monkey, c'est les singes. On faisait un petit clin d'œil à nos origines de grands primates. Et puis, on a un autre petit clin d'œil pour dire qu'il ne faut pas oublier que les singes sont majoritairement frugivores, donc végétaliens.
C'est ça. Bah voilà, une très belle explication. Et...
comment réconcilier la terre et les singes.
Absolument. L'objectif, on l'a bien compris, de cette enseigne, située dans le 11e arrondissement de Paris, boulevard Beaumarchais, c'est de réinterpréter, donc on l'a dit, les classiques de la boulangerie artisanale, viennoiserie. J'ai sous les yeux une magnifique tarte au citron ou une tarte aux noix de pécan, des cakes marbrés, des financiers, un cookie, un millefeuille, il y a de la viennoiserie, j'ai goûté. Un seul exemple, comme ça vous allez nous expliquer comment on arrive à une illusion, à un résultat pareil, à tel point que j'imagine que bon nombre de clients entrent dans votre boutique sans savoir qu'ils ont affaire à une enseigne 100% végétale. il est tout simplement prodigieux,
le croissant. Ouais.
Mais il est
vraiment une prouesse, parce qu'on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut faire un croissant croustillant avec un goût hyper franc sans beurre, quoi. Ouais.
Puisque 100% végétal, cela signifie, on le précise quand même, ni miel, ni beurre, ni crème, ni lait.
Exactement.
Et alors ce croissant ?
Alors, bon, c'est vrai qu'on voulait garder les gros marqueurs de la boulangerie. On voulait pas être en rupture et on voulait pas qu'on nous qualifie de concept venu des US. Et on voulait qu'on nous qualifie d'une boulangerie. D'ailleurs, c'est le mot qu'il y a sur l'aventure, c'est une boulangerie. Après, nous, on s'est dit, voilà, il faut rassurer le consommateur, il faut qu'il retrouve les repères qu'il a quand il va dans une boulangerie, et les repères forts qu'il a, bah, c'est un croissant, un éclair, un millefeuille, une baguette. Donc ces choses-là, si on les a dans une boulangerie, déjà, on est dans là où on veut aller, on est dans une vraie boulangerie, quoi. Donc après, comme je le disais tout à l'heure, c'est la différence qui fera le goût. Le but, c'est qu'on enlève tous les produits d'origine animaux, mais si c'est bon, on se retrouve dans une boulangerie, et on a plein de petites anecdotes croustillantes comme ça de clients qui repèrent pas du tout que cette boulangerie est 100% végétale et qui reviennent en demandant par exemple un sandwich au thon ou des choses comme ça, et en fait c'est le goût en fait.
Et vous leur répondez quoi? Oui madame, un sandwich au thon, 4,50 €. vous dites non, il n'y a pas de thon.
Non, alors l'autre fois j'étais dans la boulangerie en train de travailler, j'entends un client qui dit un sandwich au thon s'il vous plaît. Elle lui explique que tout est végétal ici, puis il dit j'en ai pris un hier, il était très bon, il comprenait pas. Elle lui dit non, c'est un marine, mais en fait c'est une imitation thon, en fait c'est on a retrouvé un petit peu les saveurs de ce que pourrait être un sandwich thon. Et puis le gars l'a pris, il était très content. Donc voilà, enfin c'est toujours le dénominateur commun qui est le goût qui fait revenir les gens.
Et en l'occurrence, juste pour dévoiler le secret, l'ersatz entre guillemets végétal du thon, c'est quoi ?
Bah là, c'est un mélange de. Alors on travaille beaucoup. Il y a eu un gros travail de sourcing énorme. Hein. Donc il y a des mélanges de légumes qui se font, mais par exemple du sel d'Himalaya qui a apporté un petit peu un goût sucré, du tofu qui apporte des nuances différentes. En fait, parfois on s'aperçoit que il y a un travail de cuisine énorme, mais il y a un travail de sourcing en découvrant des nouvelles matières premières qui apportent des arômes différents. Puis on s'aperçoit aussi que le cerveau, il est assez conditionné. Et finalement, quand on pense manger ce produit-là, les saveurs vont en adéquation avec ce que l'imaginaire pense être. Et puis s'il y a des saveurs qui reviennent, alors on n'est pas totalement à l'écart de ce qu'on a l'habitude de manger quand on mange ce sandwich thon, quoi.
Et je rêve ou il ne nous a pas totalement dévoilé le secret du croissant ?
Oui, c'est ça, il lâche pas le morceau. C'est ce que je t'entends me dire.
On lui repose la question, elle
alors,
y va ou pas ?
Non, alors le croissant...
quelle matière grasse dans votre croissant ?
Des croissants, très simple. Il y a pas beaucoup de matières premières dans un croissant, donc c'est le plus... Ça, c'était un des produits qui était les plus délicats, parce qu'en fin de compte, ce qui fait un croissant au beurre, c'est vraiment le beurre, tout simplement, puisqu'on l'appelle comme ça. Et là, ce qu'on s'est rendu...
beaucoup de beurre.
Pas forcément, c'est plutôt une technique, la façon dont on le fabrique, etc. Il n'y a pas beaucoup de matières premières, donc les 3-4 matières premières, la farine, la levure, le sel et le beurre font le goût à la fin du produit, mais il y a aussi un peu de technique. Mais en travaillant avec pas mal d'entreprises, on s'est aperçu que c'était le point de fusion qui était extrêmement important. Que dans un beurre d'origine animale et dans un beurre d'origine végétale, parce que j'aime pas dire margarine, c'est trop péjoratif, ce qui faisait le distinguo, la différence, c'était le point de fusion qui était de quelques degrés. Donc en fait, le croissant...
Point de fusion, vous évoquez la cuisson?
Le point de fusion, c'est quand on va croquer dans le croissant et que ça va fondre dans la bouche.
C'est ça.
Et le beurre, on est sur un point de fusion autour de 23 degrés, alors que le beurre d'origine animale, sur un beurre d'origine végétale, un corps gras d'origine végétale, on est plutôt à 26-27 degrés. Mm-hmm. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est comment on peut baisser ce point de fusion pour avoir les mêmes arômes et les mêmes saveurs, enfin la même onctuosité dans la bouche. Ils ont travaillé là-dessus, on a réussi à descendre proche du beurre et finalement ça fonctionne. Donc voilà, c'est un travail qui va un petit peu dans toutes les directions. C'est-à-dire de la technique. Donc ça, c'est grâce à mes années de professionnalisme qui m'ont permis de craquer des sujets un peu techniques. Du sourcing de matières premières et puis de la découverte de nouvelles matières premières qui ont pu, suivant les sujets, suivant les produits, arriver à craquer des sujets qui étaient au début difficiles.
3 ans de recherche et développement. Ouais. Alors vous en interne, en collaboration également avec de nombreuses startups françaises d'ailleurs, il faut le préciser, qui sont dans l'innovation alimentaire. Rodolphe Landemaine, souvent la nourriture végane a la réputation d'être un peu tristoune, un peu fade, pour ne pas dire franchement peine à jouir.
Ouais, clairement.
Vous, la porte d'entrée, c'était pas vraiment le healthy, comme disent nos amis branchés anglo-saxons, c'est-à-dire la cuisine saine et bien-être, mais plutôt le plaisir.
Ouais,
une forme d'épicurisme quand
complètement.
Même.
Complètement. Parce que c'est pas lié au végétalisme, et en fait, on en avait un peu marre, enfin moi, de toujours mettre la cuisine végane dans quelque chose qui est santé, bien-être, éthique, morale, mais pas gourmandise. Et là, l'entrant sur ce concept-là, c'était vraiment de se dire, ça sera gourmet, on vient là pour se faire plaisir. On vient pas là pour maigrir, faire attention à son corps. Quand on rentre dans une boulangerie, on met ça de côté parce qu'on veut manger des choses qui sont grasses, sucrées. Donc, on voulait le même même entrant pour cette boulangerie-là. La gourmandise uniquement dans un premier temps. Une gourmandise responsable.
Le but toutefois, évidemment, de votre démarche est aussi au-delà d'un certain nombre de valeurs ouais. auxquelles vous adhérez, dont le bien-être animal et autres. Ouais. Il y a l'écologie au centre du jeu.
Complètement.
Le bilan carbone de cette nouvelle enseigne, Land and Monkeys, boulevard Beaumarchais, Paris 11e.
Alors, justement, dans cette boulangerie qui se veut un peu la boulangerie, nous, on considère que ça peut être la boulangerie du 21e siècle. On essaie de faire rentrer la tradition dans le modernisme avec toutes les contraintes contemporaines qu'on peut voir. Et comme on s'est dit qu'on disruptait complètement quelque chose, puisque ça n'existait pas, on s'est dit on va aller beaucoup plus loin. Et on s'est dit, voilà, on a listé tous les problèmes qu'il y a dans le retail aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation de plastique, les déchets, les protéines animales qui ne sont pas efficaces, efficientes, comme on dit.
Puisqu'il y a aussi, évidemment, toute cette démarche parallèle. Hein, zéro plastique dans votre boutique.
Exactement. Donc on les a listés, on a décidé d'être sans concession et on l'a dit, on va essayer de créer un lieu qui puisse répondre à toutes ces problématiques-là. Donc pas de plastique, pas de protéines animales, bien sûr, des circuits extrêmement courts, bio, gestion des déchets. On travaille avec Phoenix, une société qui nous reprend ces déchets pour faire une espèce un compost qui va ensuite redonner aux agriculteurs qui sont proches de l'Île-de-France, donc qui vont retourner à la terre, moins 10% à ceux qui viennent avec leur gamelle pour éviter de donner des cartons qu'on va ensuite jeter à la poubelle. Enfin, on a tout listé, on a mis dedans et on a dit on va voir si ça fonctionne et puis ça fonctionne, donc on est très content.
Waouh, belle initiative. Nous avons en ligne, Alice de Bordeaux.
Oui, bonjour.
Bonjour Alice. Vous avez une recette végétale à nous soumettre pour nous faire saliver?
Oui, à condition que vous aimiez le fenouil.
Non mais vous plaisantez. J'adore avec ces petites notes anisées, surtout crues d'ailleurs.
Donc,
enfin braisées de toutes les manières.
En fait, vous m'entendez?
Très bien. C'est à vous.
D'accord. En fait, c'est une bolognaise sans bœuf, mais avec du fenouil à la place du bœuf.
Oh, la bonne idée.
Voilà, en fait, je prends le bulbe de fenouil, je le lave, évidemment, et je le coupe. Alors, je suis pas très forte en coupe, mais bon, il faut un très bon couteau et couper en tout petits morceaux. Vraiment, c'est facile, il suffit de couper, quoi. Couper en tout petits morceaux, autant qu'on peut. Mmh. Et ensuite, on fait revenir le fenouil avec de l'oignon, l'échalote, de l'ail, des herbes, tout ce qu'on a, pour que ça, comment dire, que la matière devienne un peu plus tendre. Mmh. Et ensuite, moi, je rajoute un hiver de la pulpe de tomate. J'ai une marque que je ne citerai pas, qui est très bonne. Et un été, des vraies tomates. Mmh. Et après, ça mijote jusqu'à ce que ça ait l'air très bon et je mélange avec des petites pâtes creuses, je sais pas leur nom mais ça a une forme de coquillage comme ça, ça absorbe la matière et du parmesan et voilà. Et c'est très bon.
Ah, il y a quand même du parmesan pour la petite touche animale. Ça
plaira. Mince.
Non, je vous en prie.
Vous enlevez le parmesan.
On enlève le parmesan,
oui,
mais est-ce que du
c'est
coup, ce fenouil à la texture un peu viandeuse d'un bœuf ou d'un veau braisé, on a le sentiment d'avoir de la matière en bouche et que rien ne manque au plaisir finalement.
Mais garder un peu de matière quand même.
Très bien, garder un peu de matière. Merci Alice, ça nous plaît beaucoup cette recette. Merci. On va l'expérimenter à la maison. À bientôt.
Tester, c'est très bon. Merci beaucoup. Et merci pour vos conseils culinaires pendant le confinement. Vraiment, merci beaucoup.
Un grand merci, Alice.
Merci
pour votre fidélité.
Surtout la tarte à la rhubarbe.
Ah oui. Ah là là. La tarte à la rhubarbe, c'est quelque chose, ouais.
Délicieuse.
Merci.
Oui, c'est vrai. Merci.
Merci beaucoup. Elvira, on a beaucoup de réactions sur le bouton intervenir de l'appli mobile de France Inter et notamment une question un peu poil à gratter pour Rodolphe Landerin.
Oui, une question que nous soumet Alain. Le végétalien n'est-il pas contraire par moment avec l'écologie quand on réfléchit à l'origine des produits utilisés? Lait d'amande souvent de Californie, banane plantain, d'Afrique ou des Antilles, etc.
C'est une excellente question.
Et oui, c'est une question que beaucoup de gens se posent, notamment vos burgers, l'exemple d'un steak végétal qui peut contenir forcément des agents de texture, des additifs, parfois jusqu'à 17 ou 20 différents. On se dit qu'a priori, c'est moins naturel qu'un steak de bœuf, même si on sait que le bœuf, il a été abattu.
Soyons fair. Nous, on favorise bien sûr le local et l'organique, enfin le bio. Mais si dans une boulangerie, par exemple...
Vos amandes viennent pas de Californie, elles viennent plutôt de...
Non, elles viennent d'Espagne. Donc, mais par contre, si par exemple dans une boulangerie on n'a pas de chocolat, on va tous faire un peu la tête parce qu'on n'a pas notre moelleux chocolat. Donc le cacao, il n'y en a pas en France. Donc là, on est tous ok pour dire qu'on va pas se priver de gâteaux au chocolat dans une boulangerie. Enfin, ça, nous, on a bien réfléchi jusqu'à où on voulait pousser nos curseurs. Et on a été au maximum local, on a utilisé le maximum de fruits qui étaient proches et qu'on ne faisait pas venir des fruits tropicaux de l'autre bout du monde. Il y a des sujets qu'on ne pouvait pas non plus totalement rayer. Par contre, si on est fair et qu'on compare... on sait aussi que majoritairement les bovins ou les poules mangent des produits qui viennent du Brésil, enfin de très très loin. Et je pense que je suis sûr parce que je lis beaucoup de choses à ce sujet, que si on faisait le comparatif, la nourriture végétalienne, même si on fait venir quelques ananas de l'autre bout du monde, est beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficace en termes d'impact écologique.
Ensuite, on peut vous répondre qu'il existe des élevages bovins très écologiques avec manger à la fois, même si c'est une minorité. Mais...
Exactement. C'est une meilleure.
C'est absolument.
Mais ça existe.
Prouesse incroyable que ce pâté végétal. Non, franchement, ça fait la blague. Dans le sens où on peut tomber dans le panneau sans aucun problème. J'ai croqué dans un sandwich. Alors, très français a priori. On croirait une très belle terrine avec des cornichons pour le petit côté électrique sous le palais. Évidemment, c'est le principe. Zéro origine animale, mais des lentilles vertes. Donc, pour les protéines végétales, bien joué. Champignons de Paris, bien joué aussi pour les protéines. Ouais. Noisettes, oignons, tofu. Ouais. Là, on a affaire à des choses en plus assez... local, bravo.
Ouais, en fait, la partie salée, snacking, ça a été la plus compliquée à aborder parce que les curseurs le snacking, la petite restauration qu'on trouve dans une boulangerie, il y a des marqueurs extrêmement forts, le jambon beurre, le mix, le poulet, enfin, on a des typologies de sandwichs qu'on retrouve et qui sont les fers de lance d'une boulangerie classique quand on vient se restaurer le midi. Et là, il y a eu un vrai travail de brainstorm, de réflexion, de recherche, parce qu'on voulait pas uniquement des sandwichs qui soient composés que de légumes divers et variés. Il y en a, mais on voulait aussi qu'on puisse recoller. Enfin, je veux pas être l'ersatz de la gastronomie française, mais il fallait que rassurer le consommateur et retrouver des choses qu'il avait l'habitude de trouver. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense.
Et précisons quand même que Rodolphe Landemann est avant tout et d'abord un boulanger exceptionnel. Je suis bien placé pour le savoir, Rodolphe.
Ouais, je pense. Ouais. Vous n'êtes pas très loin de la première boulangerie j'ai ouverte dans le 9e.
Votre boulangerie historique, j'habite à côté. C'est pour ça, être exactement. Assez honnête, et j'achète mon pain fait à partir de levain naturel, de fermentation longue et de blé biologique. Mmh. C'est chez vous. Je connais absolument par cœur l'intégralité de votre gamme. Je vous propose, cher Rodolphe, une petite récréation littéraire avec notre ami Vincent Josse. Il nous fait découvrir aujourd'hui un extrait d'Une gourmandise, le roman de Muriel Barbery, où l'histoire d'un grand critique culinaire qui arpente sa mémoire à la recherche de son meilleur souvenir gustatif. Devinez lequel, ce serait peut-être une saveur liée au potager de sa tante Marthe.
Affalé sur le banc, sous le tilleul, je me réveillais d'une sieste voluptueuse bercée par le chant des feuilles et, sous cet auvent de miel sucré, je mordais dans le fruit, je mordais dans la tomate. En salade, au four, en ratatouille, en confiture grillée, farcie, confites, cerises, grosses et molles, vertes et acides, honorées d'huile d'olive, de gros sel, de vin, de sucre, de piment, écrasées, pelées, en sauce, en compote, en écume, en sorbet même. Je croyais en avoir fait le tour et, en plus d'une occasion, en avoir percé le secret, au gré de chroniques inspirées par les cartes des plus grands. Quel idiot! Quelle pitié! J'ai inventé des mystères là où il n'y en avait pas, et pour justifier un bien pitoyable commerce. Qu'est-ce qu'écrire, fût-ce des chroniques somptueuses, si elles ne disent rien de la vérité, peu soucieuses du cœur, inféodées qu'elles sont, au plaisir de briller. La tomate, pourtant, je la connaissais depuis toujours, depuis le jardin de Tante Marthe, depuis l'été qui gorge la petite excroissance chétive d'un soleil de plus en plus ardent, depuis la déchirure qui faisait mes dents pour asperger ma langue d'un jus généreux, tiède et riche que la fraîcheur des réfrigérateurs, l'affront des vinaigres et la fausse noblesse de l'huile masquent en sa générosité essentielle. Sucre, eau, fruits, pulpe, liquide ou solide, la tomate crue, dévorée dans le jardin sitôt récoltée, c'est la corne d'abondance des sensations simples, une cascade qui essaime dans la bouche et en réunit tous les plaisirs. La résistance de la peau tendue, juste un peu, juste assez, le fondant des tissus, de cette liqueur pépineuse qui s'écoule au coin des lèvres et qu'on essuie sans crainte d'entacher ses doigts. Cette petite boule charnue qui déverse en nous des torrents de nature, voilà la tomate. Voilà l'aventure.
Le plaisir sensuel de croquer dans une tomate mûre et tiède au potager, c'est une expérience que vous avez vécue, Rodolphe Landemann ?
Presque quotidiennement d'ailleurs.
C'est vrai ?
Bah oui, forcément.
Bon, de préférence en saison.
En saison, voilà. Le maraîcher nous conseille.
C'est ça. Une gourmandise de Muriel Barbery. Merci à Stéphane Solier pour ce texte gourmand. Merci à Vincent Josse pour sa lecture. Et Vincent, on le retrouve à 15h pour une rediffusion du Grand Atelier consacré à Françoise Sagan. Des auditeurs nous posent des questions sur le tofu.
Oui.
Quand j'ai dit que c'était aussi un peu local pour le pâté végétal, dont, chers auditeurs, vous retrouvez la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et franchement, c'est un pâté extraordinaire.
Sylvie nous demande notamment d'où vient le soja qui sert à confectionner votre tofu.
Ah.
Viendrait-il d'Amérique du Sud ?
Alors, sur le soja, je sais que beaucoup d'agriculteurs remettent en culture, enfin mettent en culture maintenant en France du soja pour toute cette demande qui explose. Nous, on source au maximum en local, on fait pas forcément la traçabilité de tous les ingrédients qu'on utilise parce qu'on en a beaucoup. Et ça, je peux pas vous répondre si ça vient d'Amérique du Sud ou pas. Il faudrait regarder sur l'étiquette tout ça, mais ça passe par le crible de la personne qui s'occupe des achats chez nous. Et en fait, le critère hyper important, c'est forcément très 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 local, voire Île-de-France si c'est possible, dans la mesure du possible.
On avait consacré une émission au tofu il y a quelques mois, ouais. Et on avait constaté que par la relance de la culture du soja bio, eh bien, ouais. Il y avait de plus en plus de tofu bio made in France.
Exactement.
Claire Vallée, bonjour.
Bonjour.
Vous prenez une cuisine totalement végétale, 100% goûteuse, joyeuse également au fourneau de Ona. C'est un restaurant gastronomique à Arès, dans le bassin d'Arcachon, dont les trois lettres signifient
origine non animale.
Voilà, pas de laitage, aucune chair animale, ni œuf, ni miel, aucun produit dérivé dans vos assiettes. Vous avez pourtant, malgré tout, malgré ces obstacles, j'ai presque envie de dire, attiré l'attention du guide Michelin, qui vous consacre une très bonne notation. Vous avez une clientèle extrêmement fidèle. Et puis vous allez même plus loin, votre mobilier ne contient ni cuir, ni laine, mais du bois, un sol végétal, etc. C'est un voyage en Thaïlande, je crois, qui vous a fait... effet de déclic.
Complètement. Je suis partie pendant une année et j'ai découvert les épices, les herbes. C'est une cuisine qui est basée sur la santé avant tout. Et j'ai pris conscience qu'on pouvait vraiment manger autrement. Et on a également des viandes végétales qu'on retrouve comme le seitan, on retrouve le tofu aussi en Asie. Donc c'est vraiment une culture aussi du végétal qu'ils ont depuis la naissance.
Des stratégies végétales avec des choses très gourmandes à la clé dans vos assiettes. J'ai entendu parler en regardant votre site internet, notamment de gnocchi de patate douce par exemple, sachant que là aussi la patate douce est un légume qui est de plus en plus cultivé dans nos terroirs de France.
Complètement. D'ailleurs, j'en cultive aussi chez moi. J'ai un jardin, donc et ça pousse très bien. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve en France et en local, complètement.
Vous vous y prenez comment pour faire ces gnocchi?
Eh ben, on va prendre de la patate douce qu'on fait cuire à la vapeur. Soit on garde la peau, soit on l'épluche. Ça dépend de la patate douce. Il y a différentes variétés. Une fois cuite, on la réduit en purée. On la met au frigo. On va prendre de la farine et de la fécule et du sel qu'on va mélanger. On prend cette purée de patate douce qu'on mélange on va former une sorte de pâte afin de former des petits pâtons après qu'on individualise. Vous prenez le système de gnocchi après, qu'on plonge dans de l'eau bouillante. Quand ça remonte, c'est prêt. On les égoutte et on les fait poêler. Enfin, moi, je les fais poêler en tout cas dans une mille de sésame ou d'amande. J'aime bien le côté un peu torréfié avec le gnocchi de patate douce qui fonctionne très bien.
Très bien, ben ça nous fait rudement envie. La recette, évidemment, figure sur notre site internet. Rodolphe Landemann, Claire Vallée, il y a aussi une stratégie culinaire qui fait beaucoup d'émules, y compris chez les omnivores. Moi, le premier, je l'ai utilisé pendant tout le confinement. Elvira, ça n'a aucun secret pour vous non plus. C'est l'aquafaba. Claire Vallée, une définition?
Bah, l'aquafaba, c'est tout simplement le jus d'eau de cuisson du pois chiche. Vous prenez des pois chiches, vous les faites cuire dans une gamelle d'eau. Et ce qui va rester, en fait, c'est cette eau de pois chiche qu'on va faire réduire. Ça ressemble très, très, très singulièrement au blanc d'œuf.
Et oui.
Et une fois qu'on le met dans une cuve avec un batteur, on se rend compte que ça s'émulsionne. Si on rajoute du sucre, on obtient une meringue. Voilà.
Donc en fait, on peut utiliser ni plus ni moins que ce jus de pois chiche cuit pour tout faire à la place en fait des blancs d'œufs. Rappelons que quand on est un peu flemmard, comme Elvira et moi, on n'est pas obligé de faire cuire ou tremper des pois chiches pendant toute la nuit.
Ça fonctionne très bien avec le liquide de la conserve.
Ah, on sent la paresseuse. L'aquafaba, évidemment, fait partie de vos alliés.
Complètement. Grande révolution de l'aquafaba, parce qu'il y a 4-5 ans, quand le monde vegan, enfin végétalien, s'est aperçu que finalement on pouvait faire des blancs en neige avec des protéines d'origine végétale, donc c'est parce que c'est des protéines qui viennent du pois. Ça a été une vraie révolution parce que ça a été une façon de penser aussi la gastronomie différemment et de s'apercevoir qu'on était qu'aux prémices de ce que pouvait nous apporter le végétal. Et moi, je développe avec une start-up aussi française qui s'appelle Tamago Food, Yumgo, qui est une solution végétale, 100% végétale, parce que l'aquafaba est une solution qui foisonne, mais dans l'albumine, dans les protéines de l'œuf, en fait, c'est des protéines. Il y a un mix de protéines qui permet à la fois de foisonner, de coaguler, de stabiliser des émulsions. Et ça, on le retrouve pas uniquement dans l'aquafaba. Donc, on développe une solution plus générique qui permet de répondre à toutes ces problématiques quand on est pâtissier, qu'on veut utiliser des blancs d'œufs. C'est la coagulation, stabiliser une émulsion et le foisonnement.
Et l'aquafaba vous permet notamment d'arriver à...
ce macaron absolument atomique.
Qu'elle est en train de grignoter en douce.
Le principe du macaron, enfin de la coque du macaron, c'est le blanc d'œuf.
Exactement, c'est des blancs d'œufs serrés avec du sucre et cuit au four. C'est une sorte de meringue, exactement.
Et là, c'est de l'aquafaba à la place du blanc d'œuf.
Alors là, c'est pas de l'aquafaba. Nous, on utilise cette solution que je vous ai dit. C'est Yungo, parce que l'aquafaba ne coagule pas au four. Donc, il remplit.
Mais il y a quand même du jus de pois chiche dans cette histoire.
Non, remplit une des fonctions que fait l'albumine. Il faut savoir que l'albumine, c'est 90% d'eau, 10% de protéines. Cette solution générique qui s'appelle Yungo, c'est 90% d'eau, 10% de protéines d'origine végétale.
Ah d'accord, mais pas forcément de pois chiches.
Voilà, pas du tout. Un mix de protéines diverses. Il y a de la pomme de terre, il y a plusieurs typologies de protéines. Et en fait, le but, c'est que quand le pâtissier va pouvoir l'utiliser, il va pouvoir l'utiliser de la même façon. Il ne va pas changer sa recette, il va l'utiliser pour faire des blancs d'œufs, des meringues, des biscuits, etc. Des macarons, en l'occurrence, comme vous goûtez celui-ci.
Claire Vallée, un petit tour de main avec de l'aquafaba.
C'est-à-dire.
Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Vous faites quoi?
On fait des meringues, hein, de toute façon, de base, donc avec le sucre et l'aquafaba.
Donc vous mixez du jus de pois chiche.
Oui.
Il monte en neige.
En fait, on le mixe pas, on le fait mixer avec un batteur.
Bien sûr, c'est ce que je voulais dire.
Et on rajoute quelques gouttes de citron pour stabiliser. Après, on rajoute le sucre. Et là, on a une meringue. Donc après, vous pouvez amener des arômes naturels dedans. On les poche, une poche à douille, au four, tirage ouvert, un four tirage ouvert, on va dire 80 degrés, voilà.
Très bien.
Et une fois que c'est sec, vous avez des meringues, voilà.
Un grand merci, Claire Vallée. Vous reprenez, les affaires reprennent chez Ona?
Oui, très bien. Nos clients sont là, ils ont eu la patience de nous attendre et on est très contents, voilà.
On viendra vous voir avec plaisir du côté du bassin d'Arcachon, parce qu'il paraît que vous en faites de sacrées prouesses. Merci beaucoup, Claire Vallée.
Merci. Bonne journée à vous.
Merci. Nous avons Tessie en ligne.
Allô?
Tessie ou Tessie, excusez-moi.
Bonjour, François-Régis. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez.
Merci beaucoup. Vous avez une petite recette végétale pour notre ami Rodolphe Landemaine qui vous écoute attentivement.
Oui, alors bien moi j'ai une recette de fèves au camoun, enfin au cumin comme on dit ici en France. Mm-hmm. C'est une recette que ma maman faisait quand j'étais enfant en Algérie. Alors c'est très simple, il faut un bol de fèves fraîches ou sèches, hein. Mm-hmm. Ça peut être fait aussi bien au beau jour qu'en hiver. Sauf que lorsque ce sont des fèves sèches, bien sûr, ça cuit un peu plus longtemps. Alors voilà, il faut donc un bol de fèves, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, on met ça dans une casserole, une bonne cuillerée à soupe de cumin, une pincée de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de piment si on le supporte, un verre d'eau, 2 gousses d'ail moulues, enfin c'est-à-dire hachées menues quoi, hein. Et on cuit à couvert 10 minutes à petit feu, si ce sont des fèves fraîches. Et 20 minutes si ce sont des fèves sèches. Et on cuit à couvert à petit feu. Et voilà, c'est tout.
C'est
on se régale, on peut manger ça tranquillement devant la télé l'hiver, hein, comme si on mangeait des pop-corn. Et on peut faire aussi les pois chiches de la même manière.
Ah, génial. Alors ça, moi je peux vous confirmer.
En conserve, hein, bien sûr.
Enfin, on conserve, on les fait tremper toute une nuit et ensuite on les cuit 30 à 45 minutes.
Oui, voilà.
Dans de l'eau bouillante, mais je vous confirme que le mariage assez évident du pois chiche avec le cumin, puisqu'on a affaire quand même à deux produits qui sont très connotés Orient, c'est merveilleux. Oui. Pois chiche, oui. Cumin.
C'est vrai.
Avec un petit peu de hareng fumé. Non, pardon. Désolé. Non, je me suis trompé d'émission aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci Teddy pour cette recette. On l'expérimentera et je viens de croquer dans un autre truc absolument dingue.
Le marbré,
mais quelle gourmandise. Ouais. Là où vous dites que la porte d'entrée, le plaisir et pas seulement le LC. Bon, en matière grasse, attention, bon, c'est pas du beurre, mais on a quand même ce qu'il faut.
Ouais, il y a ce qu'il faut, c'est gourmand, c'est gras, quoi, c'est ce qu'on recherche.
Ben vraiment, bravo, vous restez avec nous évidemment, Rodolphe, puisque notre amie Elvira Masson a une petite lecture nourrissante à vous faire découvrir et vous allez y être sensible.
Je voulais vous parler d'un livre qui a été écrit en 2015 et qui vient seulement d'être traduit en français. Il paraît chez Actes Sud dans la collection formidable Domaine du Possible. Il s'agit de « Qui nourrit réellement l'humanité ?». Il est signé Vandana Shiva. Alors beaucoup d'entre vous la connaissent, je pense. Vandana Shiva est indienne. Elle est née au pied de l'Himalaya en 1952, d'une mère réfugiée pakistanaise devenue fermière et d'un père ancien de l'armée britannique reconverti en garde forestier. En son temps.
Ça, c'est le macaron à la framboise. Vous connaissez c'est bien ça. D'ailleurs, hein, cet auteur indienne.
Oui, j'aime bien.
En son temps, le grand-père maternel s'était engagé pour l'éducation des filles. Je ne vais pas y arriver, là.
Buvez un petit coup.
Qu'est-ce que je pourrais manger qui me ferait passer mon chat dans la gorge?
Oui, c'est ça. Non, ça y est, je commence à comprendre la stratégie d'Albi. Buvez un petit coup. Et puis, on peut parler aussi du monkey cookie, en un mot. Vous nous le décrivez aussi, parce qu'il parade sur le plateau dont on va déguster.
Ouais, le monkey cookie, il est là. Ouais, c'est la petite signature de la boulangerie-pâtisserie, hein, monkey cookie, hyper gras, hyper gourmand, avec un petit insert chocolat. Il fait fureur, il est devenu un petit peu une des références de la boulangerie.
Et une des références de la boulangerie, le monkey cookie, dont vous avez, chers auditeurs, également la recette en ligne sur France Inter. Je vous propose une petite chose, le temps de retrouver vos esprits, ma chère Elvira. Ah mais ça a l'air d'aller mieux, non? Ah, c'est revenu, très bien.
Donc je reprends, j'en étais un peu à la bio de Vandana Shiva. En son temps, son grand-père maternel s'était engagé pour l'éducation des filles dans les zones rurales. Mm-hmm. Il est mort lors d'un jeûne de protestation. Ses études scientifiques auraient pu la conduire à devenir prof ou physicienne nucléaire. Mais, dit-elle, je ne suis pas assise avec mon petit morceau de papier, mon petit stylo, en train de résoudre des équations quantiques. Elle s'amusait de ça dans un entretien accordé à Libération il y a 2 ans. Mm-hmm. Au fil des vidéos que j'ai écumées, elle apparaît tout sourire, en sari, avec son chignon désormais grisonnant. Mais après quelques minutes, apparaît toujours la combattante, la précurseuse des écoféministes, chef de file inlassable de la lutte contre la brevetabilité du vivant et contre les OGM. À la fin des années 80, Monsanto commence à parler de breveter les semences. Et Vandana Shiva comprend qu'elle peut se faire entendre. Elle lance Navdanya, un centre de formation agricole et un mouvement de sauvegarde des semences. Ce livre en forme de question, donc « Qui nourrit réellement l'humanité ?», est un plaidoyer pour l'agroécologie. Car à la question posée, sa réponse est celle-ci. 70% des aliments que nous consommons proviennent des petits exploitants qui travaillent sur des parcelles de taille modeste. Contre le paradigme dominant de la pensée industrielle, elle milite pour ce qu'elle appelle la loi de la réciprocité, selon laquelle tous les êtres vivants prennent autant qu'ils donnent. Cette théorie fondée sur le vivant s'intéresse à la terre et aux petits producteurs, notamment aux productrices, à qui elle consacre un chapitre. Je voudrais terminer en vous en lisant un extrait, si j'y arrive.
Mais avec plaisir.
Les grandes entreprises mondiales ont tiré parti des fondements jetés par la science masculine pour rendre invisibles les connaissances et la productivité des femmes en négligeant sciemment la diversité de la production agricole. Un rapport de la FAO indique qu'elles utilisent davantage de diversité agricole que n'en connaissent les agronomes. Au Nigeria, elles plantent jusqu'à 57 espèces dans un seul potager. Dans le secteur agricole indien, les femmes utilisent 150 espèces différentes de plantes pour se nourrir, nourrir les bêtes et se soigner. Leur rôle de premier plan a été systématiquement réfutées. Les femmes sont invisibles en tant qu'agricultrices parce qu'un système économique patriarcal ne comptabilise pas leur production comme du travail.
Un extrait de « Qui nourrit réellement l'humanité ?» Vandana Shiva.
Chez Actes Sud.
Dont vous connaissiez la pensée.
Oui.
Et qui est végétarienne.
Elle est végétarienne.
Végétarienne, oui. Ouais. Absolument. Merci beaucoup pour cette très belle découverte. On en a un qui est avec nous à distance et qui a l'air assez enragé. Que se passe-t-il? Mais c'est peut-être pour la bonne cause.
On va déguster. Sur France Inter.
Antoine Gerbel?
Oui, bonjour.
Comment
bonjour,
allez-vous?
Très bien. J'aimerais bientôt être avec vous dans ce studio.
Mais ça va pas tarder.
Bonjour Elvie, bonjour à tous et à toutes. Oui, j'ai une rage, mais j'ai une rage positive et savoureuse aujourd'hui. Comme vous avez évoqué dans la première partie de l'émission, la place des femmes en cuisine, je profite de cette chronique pour poursuivre les pistes féminines et un peu lyonnaises. Alors Lyon, ça a été dit, est un carrefour gastronomique, mais la capitale des Gaules est aussi un incroyable et unique carrefour viticole. Dans le département du 69, ce 69 si érotique, se retrouvent administrativement deux grands vignobles. Au nord, le sud du Beaujolais et son roi Gamay, et au sud, toujours dans le département du Rhône, on l'oublie, à un peu moins d'une demi-heure de confluence, vous avez les spectaculaires coteaux de Côte-Rôtie, la star d'El Sierra du Monde, et le doux voisin exotique, le blanc parfumé du Condrieux. Lyon a donc deux connexions de plus avec la vallée du Rhône. Les Côtes-Rôties Condrieux, on vient de le dire, c'est délicieux, mais c'est très cher. Et les Lyonnais, ils sont quand même assez proches du porte-monnaie. Et ils se tournent de plus en plus vers deux belles appellations, toujours rhodaniennes, c'est Saint-Joseph et maintenant Crozes-Hermitage. Cette vaste et prometteuse appellation de la rive gauche du Rhône sur 11 communes de la Drôme. Alors, une grande dégustation récente de Crozes-Hermitage m'a permis d'apporter un vin qui fait raccord avec l'émission. Il est signé par deux sœurs qui méritent toute notre attention. Je rappelle, à propos de la féminisation du vin, qu'en 1988, c'était hier, la France comptait seulement 13,5% de vigneronnes. Mmh. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de chefs d'exploitation viticole du côté des femmes. Mais la féminisation est lente, elle progresse, mais c'est lent. C'est un milieu macho, plutôt féminin, on le sait très bien. Il faut trouver ses repères. Mais si beaucoup se trouvaient naguère vigneronnes par héritage ou par veuvage, c'est les fameuses veuves champenoises, elles sont toujours plus nombreuses désormais à choisir par choix. Et là, le choix, elles l'ont fait. Je vais vous parler de Lucie Fourel. Alors, elle se destinait par ses études, à ne pas être vinificatrice, mais simplement passionnée par les langues. Elle a commencé dans le commerce international, mais ses parents étaient dans la vigne. Mais une vigne particulière, vous savez, dans le Rhône, vous avez beaucoup de gens qui adhèrent à la coopérative. Donc, ils sont viticulteurs, ils font des raisins, ils apportent ces raisins à la coopérative. C'est difficile de sortir de la coopérative, et quand on est enfant de vigneron coopérateur, on hésite en 2020 à repartir sur cette voie-là parce qu'on a vraiment envie de faire du vin. Et puis elle a basculé, Lucie, elle décide de se lancer, aller pas à pas à faire du vin. Elle se forme rapidement chez Cuzel Rock, une belle signature de Côte-Rôtie, Vincent Paris, une autre très belle signature de Cornas, et elle décide de sortir 4 hectares, donc qui était avant la cave coopérative de Tain, sous son nom. Alors elle s'installe en 2006, non loin de ses parents. 4 ans plus tard, elle a embouteillé pour la première fois son vin. Et je me souviens très bien qu'en 2013, j'avais goûté ce vin un peu timide qui cherchait ses traces. Et j'ai retrouvé dans une dégustation de 2018 son vin très très beau. Alors elle a débaptisé son domaine. Il s'appelait Lucie, maintenant il s'appelle Domaine des Quatre Vents parce que sa sœur Nancy l'a rejoint en 2013. Et je vais vous parler d'un vin qui est original. Ce vin, il s'appelle La Rage. Alors c'est le début de ma chronique. Pourquoi La Rage? Ça n'a rien à voir avec l'encéphalite virale grave touchant principalement les mammifères. Un lieu dit qui s'appelle La Rage sur Mercurol, donc en Crozes-Hermitage, c'était un monsieur Rage qui a bu cette vigne il y a très longtemps, qui a donné son nom à cette parcelle. Mais ça lui a tapé dans le palais à nos sœurs Fourel. Elles se sont dit pourquoi pas mettre un petit peu en avant ce nom. Alors le nom est marqué en gros sur l'étiquette, La Rage, sur un blanc pure Marsanne, très belle Marsanne, vous savez ce raisin un peu rare, qui a une peau épaisse, qui a un petit ficelle cultivé, qu'on trouve surtout dans le nord de la vallée du Rhône, et c'est un blanc 2018 qui est à la fois jurassien et praliné. Tiens, c'est un peu lyonnais ça, jurassien c'est un petit peu oxydatif et praliné parce que c'est très doux, c'est un petit peu sucré, grillé dans ses arômes. Alors c'est pas un vin qui va plaire à tout le monde, la Marsanne, encore une fois, il faut avoir fait un peu, comme les belles Syrah, il faut avoir un peu un parcours dans son aventure du vin pour trouver cet épanouissement. Mais je trouve ce vin magique. Voilà, ça génial. Se trouve bien évidemment au Domaine des Quatre Vents. Il est situé à Mercurol. Toutes les coordonnées sont sur le site de On va déguster. Et si vous êtes lyonnais, dans le 7e, il y a deux bars à vin, En Attendant Septembre et Le Verre Coquin.
Ah oui.
Qui sert tous les vins des sœurs Fourel.
Les sœurs Fourel, une très belle découverte grâce à vous, Antoine Gerbel. Un grand merci. On vous retrouve bientôt en juillet, pourquoi pas, dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Un immense merci, Rodolphe Landemaine, d'avoir partagé toutes ces choses avec nous. C'est vraiment délicieux. On est absolument conquis. Je précise d'ailleurs qu'il y a de très belles recettes, puisque vous en avez fait pendant le confinement, de flan au chocolat, de cookies, tout à partir de matière végétale à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. À dimanche prochain pour un dernier On va déguster XXL, musique et gastronomie, si vous le voulez bien.